Laudetur Jesus Christus.
Samaritanus Bonus, c'est le nom de la lettre publiée hier par le Saint-Siège, un document qui précise la position de l'Église sur la fin de vie, son opposition ferme à l'euthanasie et au suicide assisté, réaffirme le primat du soin et de l'accompagnement des personnes jusqu'au bout. Nous en parlerons justement dans notre dossier avec une aumônier en soins palliatifs. Affrontement au sommet hier soir lors de l'Assemblée générale des Nations unies entre les présidents américains et chinois. Donald Trump et Xi Jinping se sont accusés mutuellement sur la pandémie et la question climatique. Algarade virtuelle au parfum de guerre froide. La Grèce et la Turquie prêtes à discuter au sujet de la Méditerranée orientale, théâtre depuis plusieurs semaines de frictions entre les deux pays. Nous retrouverons notre correspondante à Istanbul. Et puis, présentation ce mercredi du nouveau pacte migratoire de la Commission européenne avec réforme du droit d'asile. Une initiative voulant défendre un mécanisme de solidarité obligatoire entre pays de l'UE. Un sujet pour le moins clivant.
Radio Vatican, le journal, Manuela Affigi.
Bonjour à tous. C'est donc un texte dense et majeur qu'a publié hier la Congrégation pour la doctrine de la foi, la lettre Samaritanus Bonus en une vingtaine de pages. Elle expose et détaille la position de l'Église sur la fin de vie, condamnant l'euthanasie et le suicide assisté, invitant à prendre soin jusqu'au bout des personnes. Un document devenu nécessaire au regard de nombreux cas de législation évoluant vers l'euthanasie justement. Marie Duhamel.
L'Église s'oppose à l'acharnement thérapeutique, mais réaffirme que l'euthanasie est un crime contre la vie humaine, que toute coopération, formelle ou matérielle, à un tel acte est un péché grave, et qu'aucune autorité ne peut légitimement l'imposer ou l'autoriser. Supprimer un malade qui demande l'euthanasie ne signifie pas reconnaître son autonomie et la valoriser, précise la Congrégation pour la doctrine de la foi, mais au contraire, cela signifie ignorer la valeur de sa liberté fortement conditionnée par la maladie et la douleur, ignorer la valeur de sa vie. La lettre revient sur des expressions en vogue, soulignant par exemple l'équivoque du concept de mort digne ou une compréhension erronée de la compassion. La véritable compassion humaine ne consiste pas à provoquer la mort, mais à accueillir le malade, à le soutenir, souligne le document. Avec cette lettre, la Congrégation pour la doctrine de la foi se propose de fournir des indications concrètes pour actualiser le message du bon samaritain. Même lorsque la guérison est impossible ou peu probable, l'accompagnement médical, psychologique, spirituel est un devoir incontournable. Jusqu'au bout, cet accompagnement est essentiel. Prendre soin de la personne malade, être avec elle, l'accompagner en l'écoutant, en lui faisant sentir qu'elle est aimée et désirée. Voilà ce qui peut éviter la solitude, la peur de la souffrance et de la mort, autant d'éléments qui sont aujourd'hui parmi les principales causes des demandes d'euthanasie ou de suicide assisté.
Marie Duhamel. Et puis d'ici quelques minutes, le pape François tiendra son audience générale dans la cour Saint-Damas du Vatican. Il va poursuivre son cycle de catéchèse sur guérir le monde après la pandémie. Une audience que vous pouvez suivre en direct, en images et commentées en français sur notre site ou notre page Facebook. Une nouvelle guerre froide entre la Chine et les États-Unis, c'est le risque pointé du doigt hier à l'ONU par le président américain. Au premier jour de l'Assemblée générale de l'institution, Washington et Pékin se sont donc mutuellement accusés, surtout dans la gestion de la Covid-19, mais aussi sur le terrain environnemental et commercial. Et Delphine Allaire, c'est Donald Trump qui a ouvert le bal.
Oui, Manuela, à tenir la Chine pour responsable de ses actes, pour avoir lâché la plaie du Covid dans le monde. C'est dans une vidéo préenregistrée pour ce sommet virtuel que le président américain a une nouvelle fois directement accusé Pékin du déclenchement de la pandémie. Précisément, Donald Trump dénonce le fait que les autorités ont autorisé les avions à quitter le pays et, je cite, « infecter le monde ». Dans le viseur du locataire de la Maison-Blanche, l'Organisation mondiale de la santé aussi est quasiment contrôlée par la Chine, selon lui. Alors également enregistré, le discours du président chinois Xi Jinping ne permettait pas de répondre directement à son homologue américain. Mais son ambassadeur à l'ONU s'est chargé de rejeter de manière outrée ces accusations qu'il a jugées infondées. Sans citer les États-Unis, Xi Jinping avait lui mis en garde dans son message contre le piège d'un choc des civilisations, appelant à ne pas politiser cette lutte contre le coronavirus et en finir avec la mentalité des blocs. Mais il s'est surtout attardé sur une défense de sa gestion de la pandémie. Le président chinois qui s'est même présenté en exemple pour le reste du monde. Et au beau milieu de ce climat pour le moins électrique, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avertit lui contre combattre cette grande fracture entre les deux plus grandes économies du monde.
Merci beaucoup Delphine Allaire. Journée sensible pour le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau. Le Premier ministre canadien prononce en effet aujourd'hui le discours du trône qui ouvre officiellement la session du Parlement. Un discours de politique générale qui sera aussi l'occasion pour lui de présenter son plan de relance post-Covid. Il sera suivi dans les prochaines semaines d'un vote de confiance. La Turquie et la Grèce seraient prêtes pour commencer des pourparlers exploratoires au sujet de la Méditerranée orientale, annonce hier mardi, à l'issue d'une vidéoconférence entre le président turc Recep Tayyip Erdogan, la chancelière allemande Angela Merkel et le président du Conseil européen Charles Michel. Le chef de l'État turc s'est ensuite entretenu par téléphone avec le président français Emmanuel Macron, grand soutien de la Grèce, l'appelant à adopter une attitude constructive dans la crise. À Istanbul, Anand Lower.
Recep Tayyip Erdogan l'a redit à son homologue français Emmanuel Macron, la Turquie est prête à négocier avec la Grèce au sujet de leurs différends sur les frontières maritimes dans l'est de la Méditerranée. Mais elle accuse la partie grecque de vouloir des pourparlers à minima sur un très petit nombre de sujets, là où Ankara veut des négociations globales sur des sujets aussi variés que la délimitation du plateau continental, des eaux territoriales, des zones de contrôle aérien ou encore sur la militarisation des îles grecques en mer Égée. Bref, les deux voisins ne s'entendent pas encore sur le cadre des négociations. Un accord de principe aurait été trouvé pour lancer des pourparlers exploratoires. C'est un premier pas, mais la prudence s'impose. D'abord parce qu'Ankara et Athènes ont déjà essayé sans succès de se mettre d'accord dans ce dossier pendant plus de 20 ans, avant que les pourparlers ne soient interrompus en 2016. Ensuite parce que la Turquie prévient qu'elle n'hésitera pas à déployer de nouveaux navires dans les zones contestées si la Grèce refuse de faire un geste de son côté. Enfin, Ankara attend de connaître le résultat du prochain Conseil européen où les États de l'Union discuteront d'éventuelles sanctions contre la Turquie. Si elles se confirment, nul doute que le président Erdogan y verrait un prétexte pour se montrer encore plus intransigeant. À Istanbul, un endroit pour Radio Vatican.
Les cas de Covid augmentent sensiblement dans le monde, notamment en Europe, tandis que la mortalité, elle, semble reculer. Une situation qui oblige certains pays à durcir leurs mesures de restriction. C'est le cas du Royaume-Uni. Extension du port du masque, télétravail encouragé. À la télévision hier soir, le Premier ministre Boris Johnson a dit compter sur l'esprit d'équipe et la discipline de ses concitoyens, sous peine de devoir aller plus loin dans les restrictions. La pandémie qui cause le report du sommet européen prévu les 24 et 25 septembre. On a découvert en effet un cas de Covid dans l'entourage du président du Conseil européen Charles Michel. Il aura lieu les 1er et 2 octobre. Europe toujours, c'est aujourd'hui que sera présenté le nouveau pacte migratoire de la Commission de l'Union européenne. Une présentation anticipée à cause des incendies du camp de Moria sur l'île de Lesbos et des appels à la coordination qui ont suivi ce drame. Ce nouveau pacte migratoire était une des promesses de la présidente de la Commission Ursula von der Leyen au début de son mandat à Bruxelles, Pierre Benazet.
Il y a exactement une semaine, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, promettait une remise en cause du règlement de Dublin. C'est le point sur lequel la Commission européenne est la plus attendue, à savoir l'obligation pour les pays d'entrée des migrants de gérer les demandes d'asile. Depuis deux décennies, les pays européens riverains de la Méditerranée appellent à corps et à cri les autres membres de l'UE à faire preuve de solidarité en matière migratoire. C'est la pierre d'achoppement de tous les récents débarquements de migrants sauvés des eaux par les ONG et dont les pays se rejettent la responsabilité. C'est aussi la raison pour laquelle ont été créés en Grèce, par exemple, des centres de tri qui ont fini par devenir des camps de migrants. Lors de la crise migratoire de 2015-2016, la précédente Commission européenne avait proposé de remplacer le règlement de Dublin par un système de répartition basé sur la capacité d'accueil de chaque pays, sa richesse, son taux de chômage, le nombre de demandeurs d'asile déjà accueillis. Mais l'idée de quotas obligatoires avait été enterrée suite à l'opposition frontale des pays d'Europe centrale. La répartition des migrants sera donc la pierre angulaire de la proposition de la Commission et celle-ci envisage une solidarité obligatoire. La proposition est donc l'objet de beaucoup d'attentes des 27 capitales qui auront ensuite à les avaliser ou non. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
Le programme alimentaire mondial s'inquiète de la situation dans le nord du Mozambique où la région de Cabo Delgado se voit être la cible de groupes djihadistes depuis plusieurs années. Leurs attaques vont croissant. Elles aggravent la menace de la faim pour quelques 300 000 déplacés. Ceux-ci ont fui leur village, abandonné leur récolte, se retrouvent complètement dépendants de l'aide humanitaire. Mais la situation sécuritaire rend difficile l'accès à ces populations par les ONG. Au Nicaragua, un projet de loi déposé par le parti du président Daniel Ortega suscite l'indignation car il prévoit l'enregistrement des correspondants de presse et des ONG comme agents de l'étranger, et cela même s'ils sont citoyens du pays. Une telle disposition les soumettrait à une surveillance étroite et à la restriction de leurs droits civiques. L'opposition et la société civile dénoncent une atteinte grave à la liberté d'expression. Retour donc sur ce document de la Congrégation pour la doctrine de la foi. La lettre Samaritanus Bonus rappelle que la vie humaine est un don sacré et inviolable. Elle insiste sur le soin qui doit être apporté aux malades en fin de vie, à l'image du bon samaritain de la parabole de l'Évangile. L'accent est mis sur l'accompagnement médical, infirmier, psychologique et spirituel pour soulager la douleur et répondre aux différents besoins des patients, mais aussi de leurs proches. Les services de soins palliatifs sont l'expression de cette approche interdisciplinaire. Françoise Nivaille, aumônier d'hôpital au CHR de Lille, nous livre son expérience ce matin. Elle revient tout d'abord sur le sens de sa mission.
C'est une mission qui est vraiment difficile, mais ça a beaucoup de chance de pouvoir rencontrer les personnes à l'hôpital. C'est ce que le pape nous demande, hein, d'aller dans les périphéries, de montrer un visage d'église, ce cœur à cœur, hein, c'est ce que je dis des fois. Enfin, la personne aussi révèle en nous ce que nous avons de plus beau. J'aurais jamais pu avoir cette image aussi de moi-même si je n'avais pas fait cette mission-là. Et je crois que ça, c'est un très beau cadeau que Dieu me fait.
Comment la présence de Dieu s'illustre-t-elle à l'hôpital, en particulier dans les services de soins palliatifs?
En soins palliatifs, c'est un tsunami, en fait, l'annonce de la mort. Et donc, ce Dieu, qu'est-ce qu'il est, en fait? Est-ce qu'il est ce Dieu qui nous aide, qui va nous guérir? Et là, il faut se rendre compte que c'est pas ce Dieu-là et qu'il faut comprendre que ce Dieu est présent. Et justement, le regard que l'on peut porter à quelqu'un, il en dit long sur le visage du Christ aussi dans les évangiles. Un regard qui relève, je pense que c'est ça qui est primordial. Cette sensation qu'ils ne sont pas inutiles et que leur présence jusqu'au bout est vraiment signe d'une vie qui est honorée jusqu'au bout.
Cette expérience change également votre regard sur la vulnérabilité?
Oui, parce qu'en fait, quand on est malade, les repères changent et donc il y a un lâcher-prise qui doit s'opérer. La vulnérabilité aussi, c'est la pauvreté. Et dans cette pauvreté, je pense que Dieu parfois s'engouffre. Hein, c'est saint Paul qui le dit, mais c'est triste, c'est dramatique. Mais ça peut être aussi le lieu où Dieu vient nous parler, parce qu'on l'entend.
Quelles sont les réponses que vous pouvez apporter face à un patient qui exprime une peur de la mort ou qui aimerait que cette mort soit accélérée?
Il n'y a d'abord aucune réponse à donner, parce qu'en fait on est là pour écouter les gens. Je suis là vraiment pour accompagner, je ne suis pas là du tout pour émettre un jugement quel qu'il soit. Je suis juste là pour dire que j'écoute. Alors c'est vrai que cette écoute, elle peut aider les gens, parfois elle peut donner sens à une vie qui n'a plus de sens, même si c'est très difficile.
Cette mission a-t-elle changé votre rapport au temps?
Oui, parce que quand on rentre dans une chambre, le temps du malade n'est pas le temps des autres. Et on rentre un peu dans leur temps et il y a beaucoup de silence et des regards. Et par cela, ils peuvent aller très loin dans les confidences. Ce temps des malades, pour moi, ça a changé beaucoup ma vie, évidemment. Je vais beaucoup plus à l'essentiel qu'avant. Je contemple beaucoup aussi. Je prends du temps pour écouter la nature, pour être avec le Seigneur.
Cette mission qui peut être douloureuse, délicate, est-elle également source d'un véritable enrichissement personnel?
Oui, mais ce n'est pas linéaire, parce que ça travaille, parce qu'il y a des moments où on a fait des visites qui sont plus dures que d'autres. On va beaucoup plus loin finalement. On est obligé, on est sculpté par Dieu. On est façonné par ces rencontres qui ne nous laissent pas indemnes. C'est vraiment un enrichissement. Dans le sens où l'espérance, elle doit être là. Je fais l'expérience de l'espérance. C'est-à-dire, je pense qu'on va se retrouver, que la vie qui les attend est belle avec Dieu. C'est pas du tout de la théologie, mais c'est vraiment l'expérience du vécu. Voilà, il y a des bouleversements, il y a des très belles choses. Il y a surtout, je pense, une accélération, beaucoup de douceur aussi. J'ai été très marquée par une personne qui n'était pas du tout vieille. Ses enfants étaient tous à l'étranger, ils sont revenus. Et c'était quelqu'un qui était très croyante, donc j'ai demandé au prêtre de venir pour la bénir. Et elle disait à toutes ces personnes qui étaient autour d'elle de ne pas être triste, de ne pas être dans les larmes, mais d'être dans la joie, parce que voilà, elle serait heureuse. Et elle transmettait, je crois qu'on peut transmettre aussi tout ce qu'on a de plus beau en nous, dans ces moments-là.
Voilà, interrogée par Hélène Destombes, Françoise Navaille, aumônier d'hôpital au CHR de Lille, était ce matin l'invitée de Radio Vatican. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h avec grand plaisir pour une nouvelle édition en langue française. D'ici là, très belle matinée à toutes et à tous.